Le grand dialogue.
Sigikafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chenibiro.
Halud Mauni.
Chenibiri. Sigikafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 19 septembre 2014. Bienvenue au Grand Dialogue du Parlement qui parle ce soir de la mobilisation mondiale contre le virus Ebola. Et les députés ont décidé de plancher sur la question ici à Tamani. Voici les trois axes, les trois questions donc qui seront débattues dans cette émission. La mobilisation planétaire est-elle à la hauteur du défi? Que faut-il comprendre du cas spécifique du Mali qui n'a connu jusque-là aucun cas avéré de virus Ebola? Les réponses thérapeutiques sont-elles efficaces aujourd'hui? Voici les trois questions qui vont être avec lesquelles on va tenter de répondre pour débattre donc de ces questions. Professeur Kalilou Ouattara, député RPM, élu en commune 3. Seydou Diawara, député URD, élu à Boukouni, qui est en cours de route. Al-Mustapha Maïga, virologue et également chef du laboratoire de l'hôpital Gabriel Touré. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Nouhoum Diré est à la technique. L'Europe et les États-Unis ont intensifié leur mobilisation lundi dans la lutte contre Ebola, Bruxelles exhortant les membres de l'Union européenne à rattraper le temps perdu avec de nouvelles contributions et Washington annonçant le déblocage rapide de 88 millions de dollars. À Washington, le président Barack Obama a demandé donc au Congrès d'approuver le déblocage de 88 millions de dollars, 68 millions d'euros supplémentaires portant à 250 millions de dollars la contribution des États-Unis dans la lutte contre Ebola. Ces fonds visent à renforcer globalement l'offre de services publics dans les pays concernés, laissant du champ à la prise en charge d'urgence sur le terrain. Alors, professeur Ouattara, la mobilisation mondiale est-elle à la hauteur du défi?
Bon, je pense que on peut dire que toutes les sommes et tout l'engagement jusqu'au niveau des Nations Unies montre que, en tout cas, le problème de la maladie provoquée par le virus Ebola est pris au sérieux quand même.
Alors, M. Maïga, vous êtes virologue, également chef du service de laboratoire de l'hôpital Gabriel Touré, si je ne m'abuse.
Oui, bien sûr.
Alors, que pensez-vous de cette mobilisation planétaire?
Merci beaucoup. Bonjour d'abord à tous vos auditeurs. C'est un honneur pour nous d'être dans ce fameux studio. C'est ma première fois d'y être.
Bienvenue.
Je suis émerveillé. Alors, pour cette mobilisation, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir vraiment deux ou trois choses extrêmement importantes. La première des choses qu'il faut reconnaître, que c'est la première fois aujourd'hui qu'on ait une épidémie de ce genre. Dans des pays qui ne sont pas en conflit, dans des pays qui sont stables, relativement stables, et qu'aujourd'hui, ça attaque des systèmes de santé qui sont fragiles. Donc, ça pose un énorme problème. Et c'est pour cela, souvent, on a l'impression que la mobilisation qui est offerte, elle n'est pas souvent à hauteur. Mais en réalité, il y a énormément d'efforts qui sont en train d'être consentis auprès de tous ces pays qui sont affectés aujourd'hui, même les pays qui ne sont pas affectés. Et aujourd'hui, il y a énormément de mobilisation internationale, énormément d'argent. Et pour la première fois aujourd'hui, on découvre que l'argent vient plus rapidement que prévu en réalité. Dans les autres épidémies, la tuberculose, le VIH, le paludisme, les gens, les institutions promettent, les bailleurs de fonds ils promettent, mais l'argent vient plus tard. Mais avec Ebola, l'argent est en train d'arriver plus rapidement que dans les... Donc il y a un système de mise en alerte qui est en train d'être mis en place aujourd'hui. Mais vous savez que quand ça brûle devant chez toi, tu ne vois que chez toi parce que le feu n'est pas éteint chez toi. Mmh. Voilà.
Alors, professeur Kalilou Ouattara, vous êtes député RPM élu en commune 3. Que fait le Parlement et qu'est-ce qui se passe au Parlement dans le domaine de la lutte contre Ebola?
Bon, moi je pense que c'est trop de dire que fait le Parlement. Le Parlement n'est pas un acteur de terrain pour lutter.
Surveillez-vous assez le gouvernement?
Voilà, pour lutter, mettre des dispositifs de soi-même pour lutter contre Ebola. Nous, notre problème, Notre rôle dans tout ça, c'est de voir est-ce que toutes les dispositions sont prises au Mali pour que vraiment cette maladie n'arrive pas chez nous ici.
Est-ce que c'est le cas?
Et je pense que c'est le cas parce que le ministère de la Santé quand même a élaboré un document de stratégie en la matière. Et les stratégies qui ont été élaborées sont bien mises en place parce que nous venons de faire le tour des régions frontalières avec le Mali. Nous avons vu que vraiment toutes les dispositions sont prises pour prévenir et éventuellement s'il y a des cas, pour pouvoir vraiment les cerner et faire tout pour qu'il n'y ait pas une propagation de l'épidémie. Alors, même pas le ministère de la Santé seulement, le premier ministre lui-même a pris ce problème à bras le corps et il y a eu une réunion de tous les ministres chez lui, à la primature, pour vraiment parler de la gravité de cette situation et de l'ampleur que ça peut avoir, parce que c'est une épidémie. Et une épidémie, c'est dire que si on ne fait rien, vraiment, ça risque de se propager.
À vous entendre, on dirait qu'il n'y a pratiquement pas de problème, mais l'opposition se fait attendre d'un moment à l'autre. Le représentant sera là. Nous allons également écouter son point de vue. Mais d'ici là, les experts tablent beaucoup sur la communication. Est-ce que vous pensez que le système de communication que le Mali a mis en place, docteur Mustapha Maïga, vous êtes virologue, est-ce que vous pensez que ce système porte ses fruits?
Merci. Je suis pas un expert en communication, je pense aujourd'hui, tout de suite en venant, j'étais au laboratoire Gabriel Touré, on a une télévision dans la salle de garde, je voyais un spot publicitaire qui sortait pour sensibiliser les gens sur comment est-ce qu'il faut faire les entretiens, il faut pas utiliser, il faut se laver les mains régulièrement, les gestes qu'il faut. Donc je pense que c'est vraiment salutaire. Est-ce qu'on peut faire mieux? Absolument oui, on peut faire mieux, toujours. Et quand on peut faire mieux, c'est-à-dire qu'on peut organiser beaucoup plus des caravanes pour les jeunes, on peut organiser des sensibilisations auprès des jeunes scolaires, on peut aller vers les populations, on peut faire mieux, mais on ne dira pas qu'on n'est pas en train de faire quelque chose. On fait quelque chose. Est-ce que c'est suffisant? Il faut l'évaluer. On n'a pas d'outils aujourd'hui pour évaluer ce qui est en train d'être mis en place. Mais voilà, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Il y a des sports qui sont faits, il y a de la sensibilisation qui se fait. Mais il faut réellement évaluer tout cela et voir si réellement c'est adapté et qu'on peut faire mieux. Si on doit faire mieux, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir maîtriser?
Voilà. Alors, comment est-ce que les députés ont accueilli cette nouvelle, ce vœu du gouvernement à vouloir sensibiliser coûte que coûte les populations pour qu'elles cernent mieux les difficultés et les dangers liés à cette maladie?
Bon, effectivement, comme il vient de dire, M. Maïga vient de dire, c'est une épidémie et ça évolue dans un milieu où les gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'une maladie. Certains peuvent ne même pas croire que c'est une maladie. Donc, la première disposition, c'est la sensibilisation des populations. À part les mesures sanitaires, médicales, c'est l'IEC. Et je pense que les députés ont un grand rôle parce que chaque député représente quand même une circonscription. Il a plus de facilité quand même à réunir la population et à donner son point de vue. Ici, à faire de l'information, de la sensibilisation, pour qu'il y ait un changement de comportement sur le plan hygiénique, sur plusieurs plans. Je pense que les députés quand même peuvent faire ça. Mais il faut que les députés lui-même soient formés. Parce que ce n'est pas tous les députés qui sont de la médecine aussi.
Absolument.
Bon, donc, il y a lieu quand même de venir organiser quelque chose à l'Assemblée pour que les députés soient formés.
Alors, est-ce que vous, à l'introduction de ce débat, j'ai prononcé beaucoup de chiffres, est-ce que l'Assemblée nationale a quelquefois, ou bien depuis que le virus a commencé à sévir, l'Assemblée a voté un budget spécifique pour la lutte contre Ebola?
Nous avons vu dans la stratégie du gouvernement une stratégie chiffrée, mais jusqu'à présent spécifiquement que et une loi de finances arrive et que les députés votent un budget pour ça, je pense que ça, ce n'est pas encore fait.
Et vous pensez qu'il faille, aujourd'hui vous êtes médecin, et vous pensez qu'il faut rallonger l'estimation qui est faite aujourd'hui?
L'estimation qui est faite aujourd'hui, je pense que c'est des experts qui le font. Je pense que si cela est réalisé, ça doit suffire. Je pense qu'il y a un problème aussi, il ne faut pas trop dramatiser. Aussi, faire peur aux gens. Il y a ça aussi.
L'OMS n'est pas du tout rassurant dans ses chiffres, encore moins Médecins sans frontières. Al-Mustapha Maïga, vous êtes virologue, mais également responsable du laboratoire de l'hôpital Gabriel Touré. Pensez-vous que ces organismes soient alarmants et qu'il n'y a pas le feu à la demeure?
Je pense que non. En toute sincérité, je pense que non. Ce n'est pas la première fois que ces organismes gèrent des maladies. Ils ont déjà géré plusieurs maladies avant Ebola. Et nous avons toujours fait confiance aux chiffres qui ont été édictés. On a toujours travaillé avec ces chiffres parce que, en réalité, comment est-ce que ces organismes travaillent? Ils n'inventent pas des chiffres, en réalité. C'est des reportings qui sont rapportés auprès des ministères, auprès des institutions de chaque pays. Et c'est ce qui est cumulé auprès de l'OMS et on essaye de donner les estimations chiffrées de chaque pays. Donc, je ne crois pas du tout qu'ils soient en train d'alarmer, mais c'est vrai que c'est une réalité qui est là. Je l'ai dit au début, mais je le répète encore. On est dans des systèmes de santé assez fragiles. Quand je dis des systèmes de santé assez fragiles, ça veut dire qu'on ne respecte pas souvent les règles d'hygiène, les règles de bonne pratique. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les respecter, parce que souvent, on n'a même pas les moyens de pouvoir les respecter. Vous voyez? Et c'est ça la réalité aussi. Dans tous ces pays-là, ce n'est pas le Mali, mais c'est presque toute l'Afrique, sauf exception, quelques pays où on voit que nos chefs eux-mêmes vont aller se faire traiter. Voilà la réalité.
Pensez-vous, professeur Kalilou Ouattara, que le système sanitaire soit aussi fragile que ça en Afrique de l'Ouest?
Moi, je vais dire d'abord qu'on a de la chance avec Ebola. Parce que, effectivement, c'est une épidémie. Ça veut dire que c'est une maladie qui peut se propager. Mais la chance pour nous est que la propagation ne se fait pas vraiment par l'eau, par les vents, ce qui aurait été assez catastrophique. Mais la propagation s'est faite
au contact
du malade. Donc absolument. Ça, c'est déjà quelque chose qui facilite un peu la lutte. Donc, il s'agit effectivement de détecter à temps les malades et vraiment de les isoler et essayer de les traiter.
D'accord.
Donc, c'est ce qui fait la chance un peu. Parce que si c'était une autre maladie, comme la grippe par exemple, ben ça allait être catastrophique. Donc ça, c'est une chance pour vraiment...
Toute
la zone et pour le monde entier, c'est ça.
Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie de ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Alors, une vingtaine de radios partenaires à travers tout le Mali retransmettent ce débat en direct ou bien en différé. Voilà, j'étais également un œil sur notre page Facebook Studio Tamani. L'émission d'aujourd'hui porte sur la mobilisation mondiale contre le virus Ebola et les députés ont décidé d'en parler aujourd'hui dans le débat du Parlement. Cette deuxième partie est consacrée à cette question. Que comprendre du cas spécifique du Mali? Je le rappelle, le Mali n'a jusque-là pas enregistré de cas avérés de virus Ebola. Nos invités pour en parler, le professeur Kalilou Ouattara, député RPM élu en commune 3, et également Al-Mustapha Maïga, virologue responsable du laboratoire de l'hôpital Gabriel Touré. Alors, cette deuxième question qui est consacrée
donc toujours au virus Ebola, le cas spécifique du Mali. La fièvre hémorragique Ebola a fait 2630 morts en Afrique de l'Ouest sur 5357 cas. Selon le dernier bilan de l'OMS publié hier jeudi, trois pays particulièrement touchés, le Libéria, la Guinée-Conakry et la Sierra Leone. À ce stade, il y a eu 1459 morts au Libéria sur 2720 cas. Il y a par ailleurs eu 601 morts en Guinée-Conakry sur 942 cas et 562 morts sur 1673 cas en Sierra Leone. Selon les bilans datés du 14 septembre, les personnels de santé sont particulièrement touchés avec 151 morts. Le miracle, c'est que le Mali est toujours épargné. D'où vient donc ce miracle, professeur Ouattara?
Dans toute chose, il y a la chance. Mais le fait qu'il n'y a pas de cas de malades du virus Ebola au Mali, c'est peut-être pas la chance seulement. Sinon, la frontière du Mali avec les pays qui en souffrent est assez poreuse. Il est illusoire même de dire que entre le Mali et la Guinée que vous allez fermer tous les petits chemins qui sont là-bas. Donc s'il n'y a pas de cas au Mali, moi je pense que ce n'est pas la chance, c'est parce que des dispositifs, un cordon sanitaire est mis en place avec des sites même en cas de cas d'isolement des malades et la sensibilisation qui doit accompagner tout ça, c'est tout ça qui porte.
Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ces checkpoints?
Non, dans ces points-là, bon, il s'agit d'abord de mettre du personnel qualifié, capable de faire le diagnostic quand même d'une infection. Et cette infection, ça se manifeste, tout le monde sait, bon, il y a la fièvre d'abord. C'est ce qui fait qu'au cordon sanitaire, à l'aéroport, un peu partout, il y a un dispositif pour prendre la température de ceux qui viennent.
Des voyageurs.
Des voyageurs. Bon, et en cas d'hyperthermie, ben, il y a les spécialistes qui sont là pour voir s'il n'y a pas d'autres signes qui accompagnent cette hyperthermie, des vomissements, une diarrhée sanglante, tout. Et puis, ouais, donc, les personnes et ressources sont là et les équipements sont là sur le cordon sanitaire pour pouvoir faire le diagnostic d'abord en cas de cas. Mais indépendamment de ça, bon, c'est la sensibilisation. Hein. La sensibilisation, elle se fait. Pas d'une manière alarmante et je pense que les gens ont compris. Les gens ont très bien compris aujourd'hui que vraiment c'est une situation assez délicate. Une situation assez délicate parce qu'une épidémie, tout le monde sait que dans l'Antiquité, il y a eu des épidémies qui ont vraiment déraciné des peuples. Hein. Donc le fait que tout le monde soit sur le qui-vive, je pense que c'est quand même à saluer.
D'accord. Alors, professeur Al-Mustapha Maïga, vous êtes virologue. Aujourd'hui, le Mali parvient à contenir ce qui se passe comme vague de contamination. Pensez-vous que le salut vient du fait que le Mali n'a jusque-là pas fermé ses frontières?
Alors, on ne dira pas oui ou non, parce que c'est trop dit de pouvoir trancher exactement oui ou non. Mais au-delà de ce que le professeur a dit, les checkpoints sanitaires qui sont à Kourémalé, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller visiter ces checkpoints, où il y a des dispositifs sanitaires qui ont été mis en place, des tentes qui ont été placées pour isoler des cas suspects. Ces cas suspects, il y a des spécialistes qui vont venir faire des prélèvements. Il y a des mesures spécifiques qui ont été mises en place pour le transport de ces prélèvements dans les laboratoires spécialisés pour le diagnostic. Donc, on a la chance. Moi, je fais partie de l'équipe qui fait le diagnostic d'Ebola au laboratoire Cerefo à la faculté de médecine. Et donc, on reçoit les cas et on fait le diagnostic sur place. Donc, on n'a pas du tout traîné. Dès que c'est arrivé, les dispositifs ont été mis en œuvre et puis on a essayé de contrer. Mais vous savez, au-delà aussi, ce virus, sur le plan du virus lui-même, c'est quand même un virus qui est assez fragile en réalité. C'est un virus à ARN. L'ARN, c'est l'acide nucléique, le matériel génétique du virus lui-même. Voilà, et donc c'est un virus qui est assez fragile, qui ne résiste pas trop longtemps à des températures élevées. Donc on peut s'imaginer aussi qu'il va pouvoir garder chez l'homme, même si la personne est sous la chaleur, mais déjà le fait si la personne touche ce pot-là et que ce pot il reste sous la chaleur pendant 15 minutes, 20, 30 minutes, déjà le virus il pourra être détruit, donc l'autre personne ne pourra pas être contaminée. Donc il y a des facteurs naturels qu'on imagine qui sont peut-être aussi responsables aussi de la limitation de la propagation peut-être et de l'arrivée de ce virus ici au Mali.
Alors nous voilà, l'arrivée du professeur Seydou Diawara, député URD élu à Bougouni. Monsieur Diawara, vous prenez ce débat au vol. Nous avons déjà débattu de la première partie qui parlait de la mobilisation planétaire autour du virus Ebola. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de la gestion du gouvernement dans le domaine de la contingence du virus Ebola au Mali?
Ok, merci bien et toutes mes excuses pour le retard. Je pense qu'il faut saluer l'effort qui est déjà fait. Je ne suis pas un professionnel de la médecine, donc je ne peux pas trop apprécier et évaluer les dispositifs. Mais je sais qu'aux premières heures, à Bamako, le cas qui avait été annoncé isolé à Tomkorobou, nous avons vu toute l'agitation qui a eu lieu en ville. Donc si le gouvernement a pu prendre des dispositifs, en tout cas les longs des frontières, parce que nous avons de très longues distances avec la Guinée, qui est un pays sous menace. Je crois qu'il faut saluer cela. Je pense que chacun doit y contribuer. En tout cas, nous, en tant qu'élus du peuple, nous devons aussi contribuer à sensibiliser les gens sous la portée et vraiment de prendre en compte tout ce qui est donné comme conseil. Je crois que rendons grâce à Dieu pour le moment que nous ne sommes pas encore exposés à ces risques. Cela ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde. Donc, il y a tellement de points de contact entre le Mali et ces pays-là. Je suis d'une région, en troisième région, donc j'étais pas très loin des frontières. Ça a créé assez d'agitation. Donc tout le monde doit rester mobilisé, les professionnels de la santé, les autorités, les acteurs politiques, les organisations sociales. Je crois que chacun doit s'y mettre à cette bataille-là. Vraiment, c'est ce que je peux dire comme commentaire par rapport à cette question.
Est-ce que l'opposition est prête aujourd'hui à accompagner le gouvernement si le besoin se fait sentir d'allouer un fonds spécifique pour la lutte contre cette maladie?
Non, je pense qu'une question de vie va au-delà des contingences politiques. Moi, je pense que c'est vraiment une menace planétaire, vous l'avez si bien dit. Notre région ouest-africaine est concernée. Toute action qui peut aller dans le sens de renforcer ces dispositifs, de prendre des mesures préventives. Je crois qu'aucun Malien ne peut aller contre cela.
Alors, Al-Mustapha Maïga, vous êtes virologue et responsable du laboratoire de l'hôpital Gabriel Touré. Aux premières heures de ce virus Ebola, il y avait eu un vent de panique de la part de la population parce qu'elle ne comprenait pas trop certains dispositifs que les autorités avaient mis en place, notamment les centres d'isolement. Est-ce que vous pensez que ceci est un vieux souvenir et que la population a assez compris la démarche des autorités?
On va dire peut-être qu'une grande partie de la population a compris. Mais rappelez-vous qu'hier, en Guinée, qu'on a créé, il y a eu quand même des morts. Il y a des personnels sanitaires et des journalistes qui ont été pour sensibiliser les gens, des villageois, qui ont pensé que ces gens sont venus propager la maladie chez eux et qui les ont tués. Donc, vous comprenez. Et même des maladies qui sont encore beaucoup plus vieilles, bon, pas plus vieilles, mais en tout cas qui étaient beaucoup plus prévalentes. Je donne l'exemple du sida, le VIH. Le VIH, ça fait des années, on en parle tous les cieux, partout. Et tu vas rencontrer dans la ville, il y a des gens qui te disent que non, le VIH, ça n'existe pas, c'est une invention. Donc, on ne peut pas vouloir maîtriser tout le monde, mais on veut avoir le large, le maximum de personnes. Et donc, je pense aujourd'hui quand même que on a du mal à l'apprécier parce que au début, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, on a de moins en moins des cas suspects, il faut le dire, de moins en moins des cas suspects. Nous, il y a eu des fausses alertes, des gens qui avaient des maux de tête, on a alerté juste avec de la fièvre, des simples palus, ou bien des gens qui toussaient comme ça, on a des fausses alertes qui sont venues, qui n'ont même pas eu besoin de faire des prélèvements pour des diagnostics. Mais des cas suspects même qui ont été diagnostiqués, ce n'était pas assez nombreux en réalité en République du Mali. Nous, dans notre laboratoire, on a reçu à peu près 24 prélèvements. C'est 24 prélèvements qu'on a reçus, qu'on a diagnostiqués, qu'on a rendus négatifs. Ils sont tous négatifs. Donc, quand ça va venir et qu'on va mettre beaucoup de gens en isolement, en ce moment, on pourra apprécier si vraiment la population a compris réellement que ce problème-là est nécessaire. Voilà.
Alors, est-ce que un des facteurs qui a peut-être contribué à calmer la population et à la rassurer davantage, c'est peut-être la durée des résultats, la durée que prenaient les analyses. Avant, il fallait les envoyer aux États-Unis, mais aujourd'hui, est-ce que, professeur Ouattara, ce dispositif existe au Mali qui puisse déterminer dans un temps record si la personne est affectée ou pas du virus Ebola?
Non, moi je pense que le fait d'envoyer aux États-Unis, ce n'est pas parce qu'au Mali qu'on ne pose pas les diagnostics. Il faut avoir des résultats contradictoires parce que c'est quand même un diagnostic assez sensible. Si vous dites que c'est positif, il faut que réellement ce soit positif. Et je pense que le fait de faire un dispatching des prélèvements, c'est tout simplement pour augmenter la fiabilité,
minimiser
les
risques.
Et je pense que, bon, c'est des examens, peut-être c'est des virus, je ne sais pas trop, M. Maïga, comment il faut les cultiver, c'est des réactions sérologiques, c'est très pointu. Donc je pense que quand même, il faut un certain temps quand même pour que les résultats soient là.
Alors aujourd'hui, nous n'avons pas malheureusement une de nos expertes qui a l'habitude de venir dans ce débat. Elle déplorait le manque de moyens parfois de protection de certains agents. Le personnel de santé était parfois trop exposé, à son avis, face à ce cas-là. Est-ce que vous demandez à l'opposition, on demande plus de regard dans ce domaine pour protéger davantage le personnel soignant?
Bon, je pense. Monsieur Diawara. Si le manque de moyens de protection évoqué, si c'est une personne qui est quand même sous le champ, certainement elle a des arguments. Mais je sais que dans une causerie comme ça, tout hasard, on me parlait d'un peu de la réticence de certains agents pour aller au contact des populations. C'était vers Sélingué, je crois. Donc, ils évoquaient d'abord des difficultés, de moins des problèmes. Vraiment, j'avoue que je n'avais aucun élément d'appréciation. Mais il est évident que sans moyens, les gens ne peuvent pas travailler. Il est bien de mettre, comment ça s'appelle, comment vous appelez vos points de contact à la frontière. Ça, c'est vraiment les checkpoints, c'est les axes principaux. Mais il faut se dire qu'il y a des sentiers, il y a beaucoup de pistes qui lient les villages maliens et guinéens.
Absolument.
Donc, il faudrait quand même qu'il y ait une équipe mobile qui soit là et aller à la rencontre de ces gens-là. Rassurer davantage les populations riveraines, parce que gérer des populations riveraines, c'est assez difficile. Bon, quand il y a une menace de maladie du genre, vraiment, il faut que les professionnels soient là et qui passent par nos canaux de communication, en tout cas dans les villages traditionnels et les médias de proximité. Mais il faudrait quand même que le gouvernement puisse doter les équipes médicales de moyens suffisants. Je crois qu'on ne doit pas lésiner sur cela.
D'accord.
Pour qu'on ait plus d'assurance, de confiance, qu'on va rester à l'abri de cette maladie pendant toute la durée de combat, c'est important de dégager assez de moyens.
Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie de ce débat.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Voilà, cela nous fera énormément plaisir si vous jetez un œil sur notre page Facebook au Studio Tamani. Nous parlons ce soir dans le débat du Parlement. Je vous rappelle que le débat porte sur Ebola et les députés ont décidé d'en parler aujourd'hui au Studio Tamani. La mobilisation planétaire contre ce virus, cette troisième partie est consacrée à la question. Les réponses thérapeutiques sont-elles efficaces contre le virus Ebola ? Pour l'occasion, nous avons comme invité professeur Kalulu Ouattara, député RPM élu en commune 3, Seydou Diawara, député URD élu à Bougouni, et Al-Mustapha Meiga, virologue et également responsable du laboratoire de l'hôpital Gabriel Touré. Alors, juste avant d'entamer cette troisième partie, le docteur Al-Mustapha Meiga, virologue, veut réagir par rapport à cette question concernant le personnel de santé.
Merci de me redonner la parole. Moi, je voulais juste revenir par rapport à la première question que vous avez posée par rapport au diagnostic, les délais. En réalité, si on regardait les délais, au début de l'infection, on n'était pas du tout préparé pour pouvoir faire cela. Et donc, les premiers cas ont été envoyés au CDC Atlanta aux États-Unis. Et donc, tout de suite, avec nos collaborateurs, on s'est mis en place pour mettre les moyens en place. Parce qu'on a la capacité, on a la technologie pour pouvoir le faire. Donc on a mis la technologie en place pour pouvoir faire le diagnostic. Et le diagnostic, on a les résultats des patients le même jour. En 6 heures de temps, on a les résultats des patients. Et donc ça a été salutaire, mais comme le professeur l'a dit, un contrôle de qualité est nécessaire pour être sûr que ce que tu donnes, c'est la bonne information, parce qu'il s'agit d'une épidémie. Il ne faut pas du tout rater des cas. Et donc c'est pour ça, après, on envoie aussi des échantillons à Dakar, à l'Institut Pasteur de Dakar, et on envoie aussi une partie au CDC qui vont aller faire d'autres examens que nous, on ne fait pas ici aussi. Ils vont aller faire de la culture, des virus, pour voir est-ce qu'on n'a pas raté des choses. Et jusqu'à présent, tout ce qui a été fait est réellement concordant à ce que nous, on a donné comme résultat ici. Maintenant, la deuxième chose, quand on demande si... est-ce que le personnel sanitaire, le personnel de santé est protégé? Mais en fait, c'est par Ebola seulement qu'on est en train de parler de la protection du personnel de santé. On ne doit pas attendre Ebola pour en parler. Le personnel de santé, professeur Kalulu Ouattara, a travaillé pendant des dizaines d'années à l'hôpital du Pongé. Il sait qu'est-ce que ça veut dire, travailler dans un hôpital au Mali, travailler dans un hôpital en Afrique. Moi, je suis parti, j'ai fait beaucoup de pays africains qui m'ont sollicité. Et la semaine dernière, je viens juste d'arriver hier soir d'une réunion à Annecy avec des experts qui sont venus de partout dans le monde et des experts de l'OMS qui sont venus nous parler d'Ebola. Mais en réalité, ces pays-là qui sont touchés, les personnels de santé sont en train de fuir. Ils ne veulent plus assurer le système de santé. Ils ne sont plus prêts à se sacrifier.
Pourquoi? En réalité,
parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir travailler.
Est-ce que le Mali est mieux équipé?
Est-ce que le Mali est mieux équipé? Je dirais peut-être à peu près. Nous sommes presque au même niveau en réalité. Quand tu regardes ces pays-là, nous sommes presque au même niveau. Peut-être un tout petit peu au-dessus de la Guinée, mais on ne dira pas qu'on est. Il n'y a pas une différence extraordinaire entre nous. Ce n'est pas la différence qui existe entre l'Europe et l'Afrique. On n'a pas cette différence entre. Donc, on est toujours, même ici, nous sommes très à risque. Au Mali. Donc, je pense qu'il y a des efforts énormes qui doivent se faire pour Ebola, mais aussi pour d'autres maladies, peut-être qu'on ne connaît même pas en réalité. Voilà la réalité.
Ok, alors nous allons entamer cette troisième partie. Les réponses thérapeutiques sont-elles efficaces? L'Organisation mondiale de la santé estime désormais à 9 mois le temps nécessaire pour enrayer l'épidémie, avec des besoins chiffrés à près de 500 millions d'euros, ce qui suppose qu'il faut attendre près d'un an pour voir le virus totalement maîtrisé. Est-ce qu'il est possible d'attendre pour ces populations aujourd'hui, professeur Ouattara, également député?
Bon, je pense que normalement, on ne devait pas attendre. C'est-à-dire, depuis le moment où le virus là a été découvert, je pense que depuis ce temps, on aurait dû travailler pour essayer d'étudier les propriétés même de ces virus-là et voir ce qu'on pouvait faire. En matière de maladies virales, il y a deux possibilités, peut-être même plus. c'est d'abord la vaccination. Et on sait que beaucoup de maladies virales chez les enfants, vraiment ont été pratiquement éradiquées grâce à la vaccination. Les traitements des malades, il y a les sérums. Si le cas est déjà avéré, injecter des sérums aux malades. Et les sérums contiennent des produits qu'on appelle des anticorps qui permettent vraiment de neutraliser les virus pour que les mécanismes même de l'organisme puissent les digérer et que la maladie ne continue pas. Donc les sérums et la vaccination. Bon, pour certaines maladies connues, polio, tout ça, la variole, varicelle, ça a bien donné. Mais le problème est qu'avec ce virus Ebola là, si la maladie se présente, est-ce que l'organisme, la maladie ne donne même pas le temps à l'organisme de réagir immunologiquement? Tellement les dégâts sont là, les virus sécrètent beaucoup de produits toxiques qui détruisent l'organisme. Vous voyez, les vaisseaux sanguins deviennent perméables, il y a des hémorragies, il y a l'hémolyse, il y a inflammation du cerveau, tout. La diarrhée, déshydratation, vous voyez, c'est tellement fulgurant que l'organisme n'a même pas lui-même le temps de réagir. C'est ce qui fait que ça devient très, très difficile, les traitements. Ouais, et puis, il y a une période d'incubation aussi, on dit. Bon, on ne sait même pas combien de temps, après avoir attrapé les virus, il y aura la maladie. Vous voyez, il y a tout ça. C'est ce qui rend très difficile. Donc, la maladie est venue, il s'est trouvé que personne n'a pratiquement une quantité suffisante de sérum, puisque si la maladie se déclare, c'est les sérums. Il faut neutraliser. Bon, il se trouve que même les pays développés
n'ont pas souvent la
réponse.
N'ont pas
ça. Et qui sont moins même intéressés que nous. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons développer la recherche.
Est-ce qu'il est possible de le faire au Mali?
Mais il est possible, les procès Magaï là.
Sans moyens.
Mais comment il peut bien faire? Il faut donner les moyens, la recherche. Il peut bien faire, pourquoi il ne peut pas faire?
Est-ce que vous comprenez... merci beaucoup, professeur Ouattara. Sédou Diawara, député élu à Bouni, vous êtes de l'URD. Est-ce que vous comprenez l'impuissance mondiale aujourd'hui face à ce virus?
Bon, je ne dirais pas impuissance. Je crois que dans l'humanité, on ne peut jamais présager qu'on maîtrise toutes les calamités. Mais déjà, il faut se réjouir en tout cas de la réaction prompte, du soutien, de l'engagement même de sommité en matière de développement de médecine. Et ce matin, j'écoutais un débat, une dame, son appréciation par rapport à toute l'assistance annoncée pour lutter, elle dit que tout le problème, c'est la coordination de l'approche. Peut-être l'OMS de définir un protocole de lutte. Maintenant, est-ce que tous les acteurs qui s'engagent interviennent dans le même sens? Je crois qu'en mutualisant les moyens aujourd'hui, on prend le risque de prendre des vaccins expérimentaux qui ne sont pas avérés encore. Même ce matin, on disait que la France a autorisé l'importation d'un traitement expérimental. Donc, c'est dire que entre...
La France qui est touchée, car voilà,
ça, c'est déjà
volontaire de Médecins
qui
sans
autorise qu'on importe ce sérum expérimental. Donc, fixer un délai de 9 mois, je crois que c'est ambitieux. Si on peut circonscrire l'épidémie pendant cette durée-là, en engageant tout le monde, ce qui peut apporter de l'assistance financière qu'il le fasse, matériel qu'il le fasse, mais le plus difficile, c'est le suivi sur le terrain. C'est que la peur aujourd'hui qu'on entend par rapport au personnel médical est effrayant. Ils abandonnent. Ils ont payé une forte tribu au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone. Donc je pense que la mobilisation internationale est à saluer, mais cela ne doit pas occulter nous en tant qu'acteurs directs, en tout cas, ou voisins de ces champs, qu'on commence déjà à réfléchir. On ne doit pas attendre l'apparition d'une épidémie pour avoir un dispositif de lutte. Je crois que c'est toute la problématique. Est-ce que nous faisons assez pour soutenir la recherche? Peut-être que le professeur ou bien le M. Maïga pourra le dire.
Répondre.
Est-ce que réellement aujourd'hui, les facultés, les universités ont suffisamment de moyens pour développer la recherche? Je Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Et espérer que le traitement mis sur le marché puisse survenir, en tout cas puisse permettre de circonscrire le virus et qu'il y ait moins de conséquences. Parce qu'on sait des vaccins qui ne sont pas très connus, des médicaments, on ne connaît pas toutes les propriétés. Espérons qu'il y ait moins de conséquences dommageables.
Alors, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'à terme, le nombre de cas devrait dépasser 20 000 cas. Il y a quelques jours, Médecins sans frontières parlait de virus incontrôlable. Comment fera l'Afrique, M. Maïga?
Alors, comment fera l'Afrique? Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique regorge de grands spécialistes en réalité, il faut le dire. Il ne faut pas se déranger de le dire. Je prends le cas spécifique du Mali. Aujourd'hui, on a des gens qui ont été formés dans les meilleures universités américaines, dans les meilleures universités européennes et canadiennes, ils ont accepté revenir au pays pour travailler. Je fais partie de ces gens-là qui ont accepté revenir au pays pour servir le pays. Et donc, quand tu reviens dans le pays, il faut que les moyens puissent suivre pour pouvoir développer de la recherche.
Est-ce que dans ce cas spécifique du virus Ebola, les moyens existent au Mali?
Alors, les moyens existent au Mali. Je dis bel et bien que les moyens existent au Mali pour pouvoir travailler là-dessus. Les moyens existent. Mais comme il l'a dit M. Diawara, mais les moyens doivent être coordonnés. Les moyens doivent aller dans le même sens. Ça doit être ciblé en réalité. Quand on parle aujourd'hui, on dit par exemple les médicaments expérimentaux. Mais vous savez pourquoi aujourd'hui on n'a pas des traitements contre ce virus-là? Ce virus-là, il a été découvert il y a 40 ans à peu près. Et pourtant, il y a des maladies qui ont été découvertes bien après, pour lesquelles on a presque des solutions. Je donne l'exemple du VIH. Ça a été découvert en 1987. Et en 1987, aujourd'hui, les gens mouraient de VIH. Aujourd'hui, si les gens se prennent tôt, en Europe ou aux États-Unis, on ne meurt plus de VIH en réalité.
On vit avec
et on va mourir comme la vie normale aujourd'hui. Mais parce qu'on a investi de l'argent dedans pour en faire une priorité. Mais quand les firmes, les chercheurs ont développé, j'ai discuté avec mes collègues américains, des collègues qui travaillent sur Ebola aujourd'hui, mais ils te disent qu'ils ont développé plusieurs approches. Ils ont développé des vaccins, ils ont développé des tests, ils ont développé des médicaments expérimentaux. Mais en réalité, premièrement, il n'y a pas de cas pour aller tester, parce qu'il n'y a pas d'épidémie. Les épidémies qui arrivaient, ça arrivait, on a 20, 50 morts, 80 morts, et puis on arrive à maîtriser en réalité. Et donc, il n'y avait pas beaucoup d'épidémies. Et après, ça c'est un premier facteur limitant. L'autre facteur limitant, c'est que en réalité, personne n'est prêt à investir de l'argent pour aller tester. Parce qu'on se dit que tu vas mettre de l'argent dans un vaccin pour lequel il n'y a même pas de malades. Donc, il y a un gros problème.
Est-ce que la recherche a avancé dans le cas du virus Ebola?
La recherche, elle est en train d'avancer.
On en est où aujourd'hui?
Elle est en train d'avancer parce qu'aujourd'hui, d'abord, moi je suis très intéressé par le laboratoire. En réalité, on ne parle pas de laboratoire. Moi, je veux bien qu'on parle de laboratoire. Parce que tout commence par le laboratoire. Le diagnostic se fait au laboratoire. Quand on est guéri, on va confirmer au laboratoire. Mais le laboratoire est le dernier souci dans les plans, en réalité. Je le dis. Mais les labos, aujourd'hui, le diagnostic est en train d'évoluer aujourd'hui. On est en train de mettre des tests de sérologie ELISA en place, comme le professeur l'a dit. On a mis des tests de PCR, hein, de biologie moléculaire en place. Et aujourd'hui, On est en train de découvrir, aujourd'hui, les recherches ont permis de découvrir que, ah, attention, au début, on a dit que le virus qui était en train de faire la mortalité en Guinée, c'est le même virus qu'on trouvait au Zaïre. On dit Ebola Zaïre, parce qu'il y a différents sous-types d'Ebola. Mais les recherches sont en train de démontrer qu'en réalité, c'est le sous-type Ebola Zaïre qui a été modifié, qui a donné encore d'autres nouveaux sous-types qu'on va appeler probablement Ebola Guinée.
Est-ce qu'il y a des chances pour un vaccin? En deux mots.
Absolument, je pense qu'il y a des chances parce qu'aujourd'hui, on est en train de tester des choses et on voit que ça a marché pour certaines personnes.
Jusqu'à quand?
Jusqu'au temps où on va à la recherche, c'est le temps.
Pour confirmer. Merci beaucoup, Al-Mustapha Maïga. Vous êtes virologue et également responsable du laboratoire de l'hôpital Gabriel Touré. Alors, juste en deux mots, professeur, deux mots pour vos espoirs face à ce virus.
Bon, avant ces deux mots-là, je vais dire d'abord une question, d'où est venu Ebola? Parce que certains pensent que c'est des manipulations génétique par les Européens qui ont abouti à ça.
Nous n'avons plus de temps, professeur.
Voilà, c'est un virus qui existe dans la nature, dont certains animaux sont porteurs. Donc c'est quelque chose de naturel.
D'accord. Merci beaucoup, professeur. Voilà, malheureusement, nous n'avons plus de temps pour poursuivre cette réflexion. Cette émission est rendue possible par le soutien du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international. Le contenu de cette émission est de la seule responsabilité du studio Tamani et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. Elle a été réalisée par Ousmane Diadié Touré et Sekou Gadigo. Je suis Famoussa Sidibé. Nouhoum Diré était à la technique. Nous vous disons bon week-end et à lundi pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chen Nibiru.
Halo Dumouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.